Vous allez me dire, attention, le danger, c'est le légalisme. Alors, je voudrais bien qu'on définisse ensemble le légalisme. Qu'est-ce que c'est le légalisme? Dénoncé par le Nouveau Testament, bien sûr. C'est deux choses. Premièrement, c'est respecter la loi de Moïse. C'est de dire, hop, on reprend tout ce qui est dans l'Ancien Testament et on respecte. C'est-à-dire, on ne mange pas de cochon, on fait des sacrifices, etc. Il y a beaucoup de choses comme ça dans l'Ancien Testament. Qu'est-ce que le Nouveau Testament nous dit? Dès le livre des Actes, il y a des païens qui se convertissent. Ce n'étaient pas des Français, mais enfin, c'était peut-être des Syriens, je crois, puisque c'était Antioche. Donc, ces gens-là se sont convertis. La question s'est posée de savoir, est-ce qu'on allait leur demander de aussi respecter la loi de Moïse? Alors, les apôtres se sont réunis et il y a une décision qui a été prise. Acte 15, verset 28, on leur dit ceci. « Il a semblé bon au Saint-Esprit à nous de ne mettre sur vous aucun autre fardeau que ces choses-ci qui sont nécessaires, qu'on s'abstienne des choses sacrifiées aux idoles, du sang, de ce qui est étouffé, de la fornication. Si vous gardez ces choses, vous ferez bien, portez-vous bien. » Parce que la question, c'était de savoir s'il y avait des gens qui avaient bouleversé leur esprit, verset 24, disant qu'il faut être circoncis et garder la loi. Et donc, pour répondre à ces gens-là qui les avaient troublés, on a dit, voilà, non, la loi de Moïse, ce n'est pas pour vous, il suffit de croire au Seigneur Jésus-Christ. Et ensuite, il y a quand même des repères importants qu'on vous donne, mais il ne faut pas respecter la loi de Moïse. Et l'apôtre Paul va plus loin, dans Galates 5, il dénonce ceux qui obligent les autres à garder la loi de Moïse. Il leur dit, attention, attention, chapitre 5 des Galates, verset 2, « Voici moi, Paul, je vous dis que si vous êtes circoncis, Christ ne vous profitera de rien. Je proteste de nouveau à tout homme circoncis qu'il est tenu d'accomplir toute la loi. Vous êtes séparés de tout le bénéfice qu'il y a dans le Christ, vous tous qui vous justifiez par la loi. Vous êtes déchus de la grâce. » Et si on croit encore pouvoir gagner son salut par le respect de la loi de Moïse, on est déchu de la grâce, on n'a rien compris à la grâce. Nous sommes sauvés par la grâce, par la foi, non pas par la loi. Donc, premier aspect du légalisme, c'est de croire qu'on peut être sauvé par la loi. Et ça, il faut le mettre totalement de côté, nous sommes sauvés par la grâce, par la foi, cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu, Éphésiens 2. Ça, c'est un premier aspect du légalisme. Il y en a un deuxième qui est un petit peu plus subtil, c'est... Bon, on a cru au Seigneur Jésus, on est sauvé par la grâce, on a compris ça. Mais ensuite, on va vouloir faire des actes pour de mauvaises raisons. Ça va être, si on voulait résumer, il me semble qu'on peut résumer de la façon suivante, c'est faire pour être, acquérir un statut, ou faire pour acquérir, c'est-à-dire pour obtenir des choses. Vous voyez, on fait les choses dans une mauvaise intention. En résumé, pour soi. Le légalisme, c'est faire des actes qui ont une apparence de piété, mais pour soi. En réalité, et non pas pour le Seigneur. On va prendre des exemples. On peut se dire, ça revient un peu à ce que j'ai dit juste avant, est-ce que Dieu va me sauver si je pratique des bonnes œuvres? Romains 3, verset 28, je passe rapidement parce qu'on l'a un peu déjà développé, nous dit, vous êtes sauvés par la foi sans œuvre de loi. Donc, les bonnes œuvres que nous pourrions faire, que nous allons faire, ne nous apportent rien de plus quant au salut. Est-ce que Dieu va davantage m'aimer? Ah, on pourrait se dire... Je veux accomplir des œuvres pour avoir un petit peu plus la faveur de Dieu. Parce que je ne me sens pas tout à fait aimé par Dieu. Je me sens un peu indigne. Alors si je vais faire des bonnes œuvres, là Dieu va m'aimer davantage. Eh bien pas du tout. Romains 8, verset 38. On va lire ce verset. On peut lire aussi juste un peu avant. Romains 8 nous dit ceci. Comme pour dire, ça ne sert à rien, c'est acquis de toute façon. Verset 31 déjà. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Verset 33, « Qui intentera accusation contre des élus de Dieu ?» Verset 38, « Je suis assuré que ni mort, ni vie, ni ange, ni principauté, ni chose présente, ni chose à venir, ni puissance, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus, notre Seigneur. » À partir du moment où on a cru au Seigneur Jésus, il nous aime. C'est acquis, c'est rien n'y changera, c'est pas parce qu'on fera plus de bonnes œuvres, qui nous aimera davantage, et ce n'est pas parce qu'on fera moins de bonnes œuvres ou qu'on sera désobéissant qu'il nous aimera moins. Ensuite, on pourrait se dire, si je fais des bonnes œuvres, Dieu va m'épargner, c'est-à-dire que j'aurai moins d'épreuves. Ça pourrait être un calcul, ça, hein, de dire, je vais être fidèle parce que j'ai peur que Dieu me punisse. Alors, si je suis fidèle, eh bien, il ne me punira pas. Eh bien, ce n'est pas vraiment ce que nous dit non plus le Nouveau Testament, il nous dit presque le contraire. Alors, je vais vous faire un peu peur, mais... Le Seigneur nous aime et il sait ce qui est nécessaire et qui est bon pour nous. Jean 15, verset 2 nous dit « Tout sarment en moi qui ne porte pas de fruit, il l'ôte. » Bon, ça c'est ceux qui ne croient pas. « Tout sarment qui porte du fruit, il le nettoie afin qu'il porte plus de fruits. » Si vous commencez à porter du fruit, eh bien Dieu va faire en sorte que vous en portiez de plus en plus. Et nettoyer, ça veut dire couper des branches. voyez, dans le sens ici, couper des morceaux de sarment. Eh bien, le Seigneur va aussi peut-être nous affranchir, afin de nous rendre moins attachés à certaines choses. Donc, ça peut sous-entendre aussi des épreuves. Plus on est fidèle, plus le Seigneur va continuer un travail de nettoyage, c'est-à-dire nous rendre de plus en plus libres, indépendants de choses qui pourraient nous préoccuper et donc prendre de la place par rapport à lui. Vous voyez, il ne faut pas calculer qu'on va avoir moins d'épreuves. Est-ce que Dieu va davantage me considérer? Ah, c'est-à-dire me considérer comme quelqu'un de digne de lui. Galates 3, verset 26 nous montre que non, notre dignité, elle est acquise une fois pour toutes. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi dans le Christ Jésus. Voilà. La plus belle dignité qu'on puisse avoir, c'est d'être des enfants de Dieu. Nous sommes tous fils de Dieu par la foi au Seigneur Jésus. Donc ça, c'est acquis. Personne ne peut nous l'enlever. Alors vous allez me dire, mais Matthieu 5, verset 45 nous dit, « Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent, afin que vous soyez les fils de votre Père qui est dans les cieux. » Ah, ça veut dire que si on obéit à ça, on va avoir un peu plus de dignité. Alors, je ne sais pas comment il faut exactement comprendre ce passage, mais il me semble qu'il veut simplement dire qu'on sera manifestement des fils de notre Dieu, c'est-à-dire qu'on sera des enfants qui ressemblent à leur père. C'est ça que ça veut dire. Parce qu'on peut le rapprocher de Colossiens 3 qui dit « Comme des élus de Dieu, des bien-aimés enfants de Dieu. » Colossiens 3, verset 12. Quand même le lire aussi parce que ça montre que le verset de Matthieu n'est pas un conditionnel par rapport à un statut. Colossiens 3, verset 12, « Revêtez-vous donc comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés. » Voilà, notre dignité, elle est acquise. Hein. On est des élus de Dieu, des saints, des bien-aimés. « D'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de longanimité, vous supportant l'un l'autre et vous pardonnant les uns aux autres. » C'est comme ce que le Seigneur a enseigné dans Matthieu 5. Mais c'est parce qu'on est ses enfants, alors on veut vraiment lui ressembler. C'est ça que le Seigneur veut dire. Vous soyez les fils de votre Père qui est dans les cieux, afin que vous ressembliez à votre Père, qu'on vous voit comme des fils de votre Père. Autre motivation qui pourrait être un petit peu légale, c'est est-ce que Dieu va me récompenser? On va essayer de faire le bien pour que Dieu nous bénisse. Alors il y a des gens qui pensent ça, c'est un peu la, comment on appelle ça, la théologie de la prospérité. Si je t'es fidèle, Dieu te bénit. Bon, eh bien, malheureusement, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Dans Ecclésiaste 8, bien, l'Ecclésiaste est obligé de constater que bien souvent, c'est un peu le contraire que l'on voit. Ecclésiaste 8, verset 14. Il est une vanité qui a lieu sur la terre, c'est qu'il y a des justes auxquels il arrive selon l'œuvre des méchants, et il y a des méchants auxquels il arrive selon l'œuvre des justes. J'ai dit que cela aussi est vanité. Vous voyez, c'est pas si simple. Dans la vie, c'est pas les plus bénis qui sont les plus fidèles. D'accord? Donc il faut s'enlever de la tête ce principe que si on est fidèle, on sera plus béni. Non, peut-être que Dieu permettra des épreuves, parce qu'il le juge nécessaire. Ça, c'est dans son plan pour nous. Il faut pas s'imaginer qu'on va tout d'un coup être libéré des épreuves parce qu'on est fidèle. Mais quand même. Alors, vous voyez, là, je vais nuancer un peu. Est-ce que Dieu va me récompenser? Je vais dire quand même d'une certaine manière oui. Non seulement, bien sûr, dans le futur. Ça, c'est évident, mais aussi un peu déjà maintenant. Il ne faut quand même pas enlever ce qui est dit dans la Bible. 1 Jean 3, versets 21 et 22, par rapport à la prière, nous dit ceci. 1 Jean 3, 21 et 22. « Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance envers Dieu. Et quoi que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous pratiquons les choses qui sont agréables devant lui. » Voilà. Donc quand même, ça veut dire que nos prières ne sont pas perçues de la même manière dans le ciel, suivant que nous sommes fidèles ou que nous ne sommes pas. Et ça, je crois qu'on ne peut pas l'enlever. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que Dieu va tout nous donner si on est fidèle. C'est moins simple que ça. Mais en tout cas, et aussi peut-être que nos prières ne seront pas orientées dans la même direction que si nous ne sommes pas fidèles. Vous comprenez ce que je veux dire? On va faire des prières selon sa volonté aussi. Alors, volontiers, il va nous les accorder, vous voyez. Donc, ça, c'est quand même pas... Dieu ne va pas devenir un distributeur automatique de bénédictions. On est bien d'accord. Mais quand même, nos prières vont avoir un accès particulier. Et puis, bien sûr, 1 Corinthiens 4, verset 5, dans le futur, bien sûr, chacun, Dieu mettra en lumière ce qui a été fait, soit bien, soit mal, et chacun recevra sa louange de la part de Dieu. Donc, il y a quand même une part de récompense pour ceux qui ont été plus fidèles. Mais ça, c'est dans le futur, dans le ciel. Donc, servir le Seigneur, obéir au Seigneur pour gagner des récompenses futures, oui, je ne dis pas que c'est contraire. Ce n'est pas du légalisme, c'est tout à fait ce que Dieu a prévu. Alors, il faut quand même dire les choses. C'est 2 Corinthiens 4, verset 5. Oui, d'accord. Merci. Si j'ai parlé de ça, c'est parce qu'il y aurait un danger inverse qui serait le laxisme. C'est-à-dire que, alors, si vous voulez, c'est pas parce qu'il y a le danger du légalisme que du coup on va tomber dans le travers inverse qui serait le laxisme. Laxisme, c'est deux choses. C'est de dire, par exemple, ben je suis sauvé,